I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. C'est un épisode spécial, un épisode qui n'est pas d'actu, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. On couvre toute l'actu des jeux vidéo chaque semaine dans cette émission, sauf que de temps en temps, on fait des épisodes spéciaux sur des sujets spécifiques. Et aujourd'hui, c'est le cas puisqu'on va parler rétro gaming et un petit peu préservation de notre culture vidéoludique. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Fabrice de Recallbox qui va m'aider à explorer un petit peu cet univers. Salut Fabrice, comment vas-tu ?
Salut Patrick, est-ce que tu serais déjà en train de dire que je ne suis pas d'actualité et que je suis déjà ringard ?
Écoute, je pense que forcément tu es d'actualité puisque c'est ça qui est magnifique avec l'univers de la préservation du jeu vidéo et de l'émulation, c'est qu'il y a toujours des choses qui changent et qui se passent et que ça ne s'arrête jamais, c'est pas un truc figé du tout. Donc si,
jamais.
Tu es dans l'actualité. J'ai bien récupéré le truc, ça va ?
Ah, parfait, parfait. Un grand professionnel, j'adore.
Alors, je suis vraiment heureux que tu te joignes à nous. On avait déjà parlé, on avait eu l'occasion de parler pour Recallbox, justement, il y a, ça va faire quoi, un an et demi, deux ans
Tu sais, je compte ça en confinement, ça doit faire deux confinements et demi, je crois, quelque chose comme ça.
C'est ça. Donc sur la chaîne de Recallbox, on avait passé un bon et long moment ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pas uniquement de ça dont on va parler. Je me suis dit que ça serait sympa pour les auditeurs qui sont très au fait de l'actualité, d'avoir un petit panorama du rétro gaming en général et d'une chose qui est extrêmement liée, qui est la préservation du jeu vidéo, en fait, parce que c'est un problème qui n'est pas simple, qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, qui a des intérêts et une complexité qui sont parfois un petit peu insoupçonnés. Et donc, je pense que ça serait un domaine qui serait intéressant à explorer. Très rapidement, pour ceux qui sont curieux de savoir d'où tu viens et en quoi tu es légitime pour parler du sujet, tu peux nous dire un peu ce que c'est Recallbox, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots ?
Alors, Recallbox, c'est très simple. En fait, c'est la solution clé en main et pratiquement plug and play qui vous permet de pouvoir rejouer très facilement et très simplement à pratiquement toute l'histoire du jeu vidéo. En gros, on s'appuie sur des petits ordinateurs qu'on appelle les Raspberry Pi, entre autres. Hein, et grâce à ces petites cartes qui valent quasiment trois fois rien, 40, 50 euros, un truc comme ça, eh bien, en fait, vous êtes capable d'installer dessus donc, le système qui s'appelle Recallbox. Et le système qui s'appelle Recallbox, c'est quoi ? En fait, c'est une agrégation de pratiquement 130 émulateurs différents. Donc, vous êtes capable de rejouer à pratiquement tout ce qui a existé entre la création du jeu vidéo. Donc, on estime ça à la fin des années 70. Hein, je parle dans la version jeu vidéo commercial, hein, jusqu'au début des années 2000, à peu près, en matière d'amplitude de systèmes qui sont pris en charge. Ça va des consoles de salon, consoles portables, les ordinosaures, et également l'arcade aussi qui est vraiment sympa. Moi, j'ai toujours ce terme-là, je l'aime bien.
Ordinosaure,
ouais, c'est assez attendrissant, je l'aime bien ce truc-là. C'est juste pour, on va dire, je l'utilise parce que c'est important de faire la césure, parce qu'aujourd'hui, quand on dit ordinateur, on a tout de suite tendance à croire Windows, machin, mais non, il y a eu une époque, et je pense que tu as bien connu, une époque où Windows n'existait pas, DOS n'existait pas, et il y avait même beaucoup d'ordinateurs qui n'étaient pas compatibles. Rappelle-toi, il y avait les Amiga, les Commodore, Atari, etc.
Et
après il y a eu les Et après, il y a eu les fameux compatibles PC. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a eu une époque très sombre, très trouble, et que je résume de manière très affective à Ordinosaur. Ouais.
Ouais. Alors, on parlera de la question justement des jeux en eux-mêmes, parce que c'est une question qui est épineuse et qui est aux frontières de la légalité. On en parlera tout à l'heure. Mais on va se plonger dans d'autres sujets avant. D'ailleurs, juste une question. Recallbox, du coup, moi, ça me fait penser, il y a plein de solution, hein, mais ça me fait penser à MAME également, qui est très connu. Mais comme MAME, Recallbox peut aussi s'installer sur un PC. Donc, c'est une des nombreuses solutions qui existent pour avoir un système un petit peu simple qui peut émuler toute une grosse quantité de systèmes. Et puis, ça peut aller très, très loin, hein, pour les gens qui n'ont pas suivi l'univers de l'émulation et du vrai rétro gaming depuis un moment. Il y a des systèmes qui permettent même de brancher votre machine sur une télévision CRT. Parce que c'est peut-être une introduction par une voie détournée au problème de préservation. C'est qu'un jeu qui est prévu pour tourner sur une télévision CRT, donc à tube, hein, les vieux qui ne sont pas des écrans plats, il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, et ben un jeu qui est prévu pour tourner là-dessus, il va avoir un aspect et peut-être même un fonctionnement qui va être assez différent quand il est simulé, émulé sur écran plat. Donc, il y a même des systèmes qui permettent d'avoir les prises Péritel, voilà, Eurocart en Europe, des prises Péritel pour pouvoir brancher sur une télévision cathodique, tube cathodique. C'est assez frappant quand on émule une image qui est faite pour être affichée sur un CRT, à quel point c'est beaucoup moins beau quand on l'affiche avec des pixels mieux définis sur un écran plat. J'avais été assez surpris de voir à quel point ça n'avait pas du tout le même aspect. Et même le fait de simuler un CRT, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas la même chose, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect.
Finalement, j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont un petit peu l'œil, c'est comme si on faisait le distinguo entre un film tourné et projeté en 35 mm et ensuite aplati en DVD sur écran plat. On voit tout de suite la différence. La pellicule, quand ça va être diffusé, même quand vous allez au cinéma, IMAX ou quoi que ce soit, tout est unifié parce qu'il y a la teinte, il y a la patine un petit peu de la séance de projection, la toile de projection, etc. C'est vrai que je me suis toujours dit aussi, quand tu regardes des films, que les effets spéciaux se voient beaucoup plus chez toi sur un écran plat quand tu regardes avec un DVD que lorsque tu regardes ça au cinéma où tu es, pareil, dans le cadre d'une ambiance, t'es dans le noir, etc., etc. Donc, c'est un petit peu pareil, hein, finalement, les jeux vidéo, historiquement, étaient conçus, développés pour tourner sur des écrans qui avaient leurs caractéristiques, leurs propriétés et aussi leurs limites. Et de fait, les développeurs, programmeurs de jeux vidéo, eh bien, jouaient justement de ces caractéristiques et de ces limites pour nous proposer,
des propriétés physiques du type d'affichage, quoi.
Exactement, et surtout, on n'était pas sur des résolutions de 4K à l'époque, hein. On avait des contraintes là-dessus, et donc il se faisait justement fi de ces contraintes pour jouer avec et essayer d'apporter un maximum de détails, etc. Et là, ouais.
Et c'est marrant parce que quand on met
deux images côte à côte, le rendu est vraiment pas le même, puisque quand on va aller sur LCD, par exemple, tu vas avoir des contrastes qui vont être excessivement prononcés, et tu sais, des fois un peu bruts, etc. Mais en fait, c'était prononcé parce que le système de balayage de l'époque nécessitait d'en faire des caisses parce que l'image était un peu plus assombrie, tu vois.
Exactement.
Et donc, du coup, c'est pour ça que des fois, les rendus sont pas.
Il y a le fait que les points étaient moins définis, donc ça faisait un petit flou qui faisait que l'image était moins brute et du coup, c'était moins choquant. Enfin, il y a plein d'aspects de... Bon, on va pas passer toute l'émission à parler des tubes cathodiques, mais c'est un aspect qui est intéressant pour aborder, je crois, la première chose dont on devrait parler, qui est la question de la préservation. Parce qu'il y a le jeu vidéo, comme tu le disais, est un art qui est relativement jeune encore, Et donc, on commence à peine à sortir maintenant de la période où toute notre histoire, toute l'histoire du média est relativement disponible. Je dis bien relativement, mais on a encore moyen, en cherchant un petit peu, de trouver... Alors, surtout les grosses machines qui se sont beaucoup vendues, si on pense à des choses comme l'Atari VCS 2600, les Amiga, les Commodore, ou des choses ColecoVision, même des trucs un petit peu plus obscurs, on va pouvoir trouver quelque part dans le monde ces appareils sans trop de difficultés. Et peut-être même des appareils fonctionnels qu'on va pouvoir allumer, voir... mais on est quand même dans une situation où il est relativement... Enfin, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça, ou alors ça coûte très très cher, etc. Mais il y a beaucoup d'appareils qui sont en train de disparaître également.
Alors,
et qui sont pour
Patrick,
le coup,
c'est beaucoup plus dramatique que ça. C'est-à-dire que la préservation de l'histoire du jeu vidéo, et entendez bien, effectivement, je suis invité en tant que Fabrice Recalbox, mais je vous parle également avec un maximum d'objectivité et de comment dirais-je, voilà, j'essaye d'être aussi ancré dans notre époque et dans notre société. Et on va être très clair, la question de la préservation du jeu vidéo est un vrai problème de société, un vrai problème culturel. Aujourd'hui, c'est simple, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, il n'y a tout simplement aucun plan de préservation du patrimoine jeu vidéo. C'est simple, il n'y en a pas. Les experts, j'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer beaucoup de personnes, hein, puisque pendant le confinement, j'avais enchaîné un peu plus de 175 interviews de joueurs, de passionnés, etc., etc. Et notamment, nous sommes même allés jusqu'au Japon avec Joseph Redon, qui est en charge, le responsable de la préservation du patrimoine jeux vidéo du Japon. Joseph Redon nous disait que aujourd'hui, on estime entre 15 et 25% du patrimoine jeux vidéo qui est perdu à tout jamais, qui n'a jamais été sourcé, sauvegardé, dumpé, et dont on n'a plus trace parce que bah, c'était un truc has-been et puis on l'a foutu à la poubelle et voilà, ça a été... En fait, le jeu vidéo a longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, considéré comme un média de consommation, tu vois, c'est...
C'est-à-dire que tu le prends, tu le consommes, tu passes à la suite.
Voilà.
Pour préciser pour les gens qui ne connaissent pas bien cet univers, il faut savoir que pendant, je ne sais pas, 10-20 ans, les programmeurs ne se souciaient pas vraiment, comme tu le dis, de préserver leur code source, de préserver même le produit fini.
Mais...
Et il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont compliqués à trouver, à ressortir, à émuler, parce que les sociétés même, et on va revenir sur le rôle des sociétés dans cette histoire, les sociétés qui ont développé, qui existent encore, et on parle de sociétés, je ne sais pas moi, comme Square Enix au hasard ou d'autres de ce calibre-là, n'ont simplement plus le code source. Ils ne savent pas où il est, ils ne savent pas ce qu'ils en ont fait, etc. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose.
Même encore aujourd'hui, il n'y a aucune volonté de sauvegarder, de préserver le patrimoine. Est-ce que tu as vu véritablement un musée Nintendo par-ci, par-là? Est-ce que tu as
non,
vu
mais je
Nintendo
pense qu'en interne, aujourd'hui, ils ont un système d'archivage, de classification, tu vois.
Je ne suis pas convaincu. Je ne suis vraiment pas convaincu parce que eux, si tu veux, aujourd'hui, on est dans une guerre des consoles qui est tellement... je veux dire, acharnés en matière de compétition commerciale, etc., que eux, ils sont sur l'avenir, voire ils sont à génération N plus 1, N plus 2, ils doivent se projeter vers l'avenir et ils n'ont vraiment pas le temps et ni les moyens de regarder vers l'arrière et d'avoir un rétroviseur braqué.
Moi, ce que je dirais, c'est que ne serait-ce que parce qu'ils se disent on va pouvoir ressortir des remakes, remasters ou même le jeu tel quel à un moment et le revendre, tu vois, à nos clients pour telle ou telle somme, je pense qu'aujourd'hui, ils archivent ça, mais c'est des choses
Détrompe-toi.
Non,
détrompe-toi, parce que, en fait, regarde, toutes les dernières solutions qui sont sorties récemment, tu prends, par exemple, certains jeux Nintendo 64, tu prends certains jeux, ils sont allés jusqu'à utiliser des dumps de jeux qui ne sont même pas sortis de chez eux.
Ouais.
Tu prends par exemple le meilleur exemple en date, c'était lorsque Capcom a sorti son panel arcade de joueurs, tu sais, donc les gros arcade stick qui était estampillé Capcom. C'est-à-dire qu'en fait, l'arcade stick écrivait Capcom. Et ben, à l'intérieur, les ROM ne viennent pas d'eux. C'était des équipes de, entre guillemets, qu'on appellerait maintenant aujourd'hui hackers, pirates ou je sais pas quoi, tu vois, mais en tout cas des personnes qui avaient dumpé les jeux arcade de l'époque. Et même la solution logicielle, c'était Final Burn Alpha qui a été racheté par Capcom. Alors que c'était un logiciel qui était gratuit, etc. Donc, c'est même pas le logiciel de chez eux qui fait tourner le truc. Mmh. Donc, en fait, tu vois, c'est un vrai non-sens. Regarde la PlayStation Mini également, tu vois, c'est pareil. C'est pas un truc qui a été développé uniquement en interne auprès de Sony. Ils sont vraiment à côté de leur pompe en matière de préservation. Ils y croient pas trop, je pense, en matière de réussite commerciale.
Pour l'émulation, je crois qu'on peut à la limite comprendre qu'ils aient pas envie de refaire tout le travail d'émulation quand il y a des émulateurs qui fonctionnent déjà bien, qui ont été développés par des gens par ailleurs. Par contre, effectivement, il est assez surprenant de constater, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un dump, peut-être que certains se posent la question, c'est le fait de prendre l'objet physique, donc par exemple une cartouche de jeu qu'on mettait dans sa Super NES ou une carte de borne d'arcade, qui est une carte donc logique, et de la connecter à un ordinateur et d'extraire les données de la ROM read-only memory, et de les numériser, enfin, ils sont déjà numériques, mais de les extraire et de les avoir sur un ordinateur, un fichier, simplement, qui inclut toutes ces données pour pouvoir ensuite les utiliser pour d'autres choses, comme les balancer dans un émulateur qui pourra faire tourner le jeu. Et ce qu'on a constaté à plusieurs reprises, c'est que même certaines des grandes sociétés, comme tu le dis, des gros éditeurs, ont utilisé ces dumps-là plutôt que leurs archives internes.
C'est ça.
Pour vendre ensuite les jeux en version sur les mini-consoles, les mini-sticks d'arcade, etc., que tu évoquais. Et effectivement, c'est assez surprenant de constater que ce que ça indique, c'est que, au minimum, leurs efforts de préservation, même en interne, ne sont pas parfaits. Et donc, il y a, comme tu le disais, non seulement une partie de l'histoire du jeu vidéo qui a déjà disparu. Alors, c'est peut-être des petites choses qui n'auraient pas marqué leur époque, mais ça fait quand même partie de l'histoire. Mais en plus de ça, il y a véritablement, légitimement, une crainte sur les choses qui étaient vraiment populaires au fur et à mesure qu'elles vieillissent et qu'elles s'effacent un petit peu. On peut se dire que certains de ces morceaux de l'histoire ne pourraient disparaître, quoi. Vraiment.
Mais on est en plein dedans, en fait, puisque toi qui parles d'actualité constamment dans ton podcast, j'imagine que tu as abordé déjà un nombre incalculable de fois la fermeture du PS Store pour la Vita, du PS Store pour la PSP, du PS Store pour la PS3, du eShop pour la Wii, du eShop pour la DS, du eShop pour la 3DS. Tous les stores sont en train de fermer les uns après les autres. Et après, beaucoup vont me dire « Ouais, mais j'avais plus rien à acheter sur ces consoles. » D'accord, mais tout ce qu'il y avait dessus, tous les petits jeux indés, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? On oublie, ça y est, on met à la poubelle et on n'y pense plus ? Bah non,
alors, il faut
en fait,
préciser,
tu vois, c'est pas notre vision des choses.
Il faut préciser que sur ces stores, non seulement les jeux qui sont disponibles en cartouche physique sont parfois difficiles à retrouver et extrêmement cher au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus rares, parce que oui, il y a des jeux iconiques qui sont vendus à des millions et des millions d'exemplaires, ça on peut les retrouver, c'est certain, mais il y a toute une énorme partie du catalogue qui s'est vendu beaucoup moins bien ou qui était juste moins populaire, qui est plus difficile à retrouver. Et encore plus inquiétant, il y a toute une partie du catalogue de ces stores numériques qui ne sont simplement pas disponibles en physique, qui ne sont sortis qu'en numérique. Là, on arrive à la bascule un petit peu de la période, de l'époque de notre histoire, où les stores numériques étaient suffisamment établis pour que des jeux ne sortent que dans ce format. Et du coup, la fermeture des stores, alors on peut encore acheter là pendant quelques semaines, quelques mois, au moment où on enregistre les jeux, et ils seront dans un avenir indéfini encore téléchargeable, et oui, vous pourrez les garder si vous les avez sur votre console, mais au-delà de ça, ils seront plus accessibles. Et en plus de ça, puisqu'on parle de ces grandes sociétés, il y a une sorte de motivation financière à ne pas ouvrir les choses. Parce qu'on pourrait se dire, Bon, attends, ok, la 3DS, peut-être qu'on va la garder les jeux, ou les jeux PS3, Sony veut les garder pour le cas où. Mais même au-delà de ça, que ça soit la Nintendo Entertainment System, ou la première PlayStation, ou la PSP, ou toutes les consoles, ou les machines même, on parle de consoles, mais on pourrait parler d'ordinateurs, qui sont plus vieux que ça, eh ben, les sociétés qui ont la propriété de ces propriétés intellectuelles ne veulent pas qu'elles soient mises à disposition du grand public ouvertement et librement, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va ressortir. Alors on voit depuis quelques années que le rétro gaming et les jeux anciens titillent les souvenirs des personnes d'une certaine génération, et donc on peut les ressortir, les remaker, les remasteriser, les revendre, et c'est super sympa, il y a plein de qualités là-dedans, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que tout le monde garde son patrimoine de propriété intellectuelle assez jalousement, et ça alimente un petit peu cette problématique que tu évoques, qui est que bah, y a pas d'effort de préservation générale dans l'industrie du tout, parce que tout le monde garde ses propriétés, quoi.
Et c'est vrai que là-dessus, tu soulèves un véritable problème, mais alors, je sais que peut-être des gens vont rire de ce que je vais dire, mais l'un des chevaux de bataille également, avec lesquels on a envie au moins ne serait-ce que de mettre le sujet sur la table, c'est la légitimité des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle encore aujourd'hui, en 2022. Alors attention, qu'on soit bien clair. On n'est pas en train de dire qu'une œuvre doit être publique, etc., etc. Mais est-ce que, selon le code juridique auquel on se réfère, est-ce que vous pensez que c'est tout à fait normal et légitime, à la vitesse où va la technologie, qu'il y ait une propriété intellectuelle qui court sur 99 ans renouvelable ? Est-ce qu'à un moment donné, vu que nous savons pertinemment que ces sociétés privées ne font pas l'effort d'archivage et de mise à disposition de leur patrimoine, etc., etc., passé un certain laps de temps, est-ce que à un moment donné, il serait peut-être pas temps aujourd'hui de remettre ça un petit peu sur la table et de se dire que bah, la propriété intellectuelle, finalement, on va leur laisser pendant 30 ans. Ça veut dire que au passé 30 ans, ça devient une œuvre publique. Honnêtement, ça laisse quand même 30 années pour exploiter commercialement. Ça laisse quand même un petit peu de quoi voir venir. Mais encore une fois, n'oublions pas que ça ne perturberait en rien leur plan, parce que on prend par exemple, ne serait-ce que, admettons, Final Fantasy. La vraie question, c'est est-ce que Final Fantasy VII, pour prendre cet exemple-là que tout le monde doit connaître, est-ce que Final Fantasy VII, s'il tombait dans le domaine public, poserait un problème pour leurs créateurs et les ayants droit? La réponse est non, parce qu'on le voit bien, Final Fantasy VII ne ressortirait jamais tel quel. Il serait remaké, remasterisé, remis au goût du jour, machin, etc. Et donc, en fait, au final, tu vois, il ne ressortirait pas, en tout cas sous sa forme initiale. Et donc, le fait que sa forme initiale soit disponible, tout comme, par exemple, je te prends Super Mario Kart sur Super Nintendo, le premier du nom, est-ce que Nintendo le ressortirait tel quel? Honnêtement, mis à part les aficionados, Super Mario Kart, ça pique un peu les yeux quand même aujourd'hui, jouer ça sur un écran de 60 pouces.
La réponse, c'est qu'ils l'utilisent, par exemple, pour leur service Nintendo Switch Online, et que c'est l'un des jeux auxquels on a accès pour la version Super NES. Disons que la question de la propriété intellectuelle est plus large et se pose, je pense que tu as tout à fait raison, on a un problème avec les lois Disney qui ont été intitulées de cette manière, parce que c'est Disney qui fait du lobbying aux États-Unis pour étendre et étendre et étendre la propriété intellectuelle sur leur propriété intellectuelle et le copyright, ce qui est délicieusement ironique ou affreusement ironique, puisqu'évidemment, ils ont, eux, profité d'histoires et de sujets ouverts au public, qui étaient tombés dans le domaine public, pour faire leur fortune à la base. Il y a clairement quelque chose.
C'est bon, en plus, j'avais pas pensé au côté excessivement mesquin de ce truc-là. Ouais, donc, pour rappeler, en fait, cette loi de Disney, c'est qu'en fait, il y avait pas mal d'attaques en justice aux États-Unis sur des internautes qui avaient téléchargé des œuvres. Et en fait, les internautes s'étaient dissimulés derrière le fait de dire bah oui, mais moi, j'ai téléchargé sur sur Emule ton œuvre, mais ton œuvre, elle n'est pas disponible en format numérique. C'est-à-dire que c'était que des cassettes VHS, sauf que la technologie VHS est dépassée. Le truc n'a pas été réédité, donc je l'ai téléchargé parce que c'est le seul moyen pour qu'il soit accessible. Et en fait, le Disney a répondu « Oui, mais elle n'est pas encore disponible. Elle arrive. »
Ce qui n'est pas faux. Mais il y a effectivement une grande question, un grand débat de société et même moral à avoir sur la question de la propriété intellectuelle. Parce que je pense qu'il est indéniable que ces sociétés qui en ont la propriété peuvent encore l'utiliser de différentes manières. Ils peuvent monétiser de différentes manières, etc. Et si jamais les œuvres, ce dont on parle, et je ne pensais pas qu'on irait là avec notre conversation, mais c'est vrai que c'est lié, c'est que si les œuvres ne sont plus, on a la propriété intellectuelle, le copyright sur, je ne sais pas moi, 30 ans, et bien après 30 ans, cette œuvre tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Et tu disais, bah oui, mais ils ressortent les jeux de manière différente. Ça voudrait dire que n'importe qui pourrait prendre Final Fantasy et en faire un Final Fantasy Remake à leur sauce. Et je pense que c'est choquant aujourd'hui parce que c'est un truc dont on n'a plus l'habitude, mais c'est aussi la manière dont fonctionnaient les choses jusqu'à ce qu'on se mette à allonger la propriété intellectuelle. Je pense que ça amène de la créativité et des choses intéressantes. Ça amène aussi mécaniquement une perte de revenus potentiels, de monétisation potentielle pour ces sociétés. Certains diront, ah ben tant mieux, comme ça ils feront des choses nouvelles. Je ne vais pas rentrer dans cette partie du débat, je crois que c'est une autre question, mais il est certain que l'extension infinie de la propriété intellectuelle pose question. Ça, il y a aucun doute.
Mais de toute façon, alors c'est très simple. Je vous invite à lire le livre passionnant de Geoffrey Bruneau qui est sorti il y a un an et demi, un truc comme ça, qui s'appelle « Jeux vidéo, objets juridiques identifiés ». Et en fait, c'est passionnant puisqu'il vous explique la place du jeu vidéo dans le droit. Vraiment. Et en fait, il nous explique tout simplement, pratiquement dès la première page, que le jeu vidéo n'existe pas dans le droit. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est à mi-chemin entre propriété intellectuelle, droit d'auteur, droit à l'image. C'est un mix de tout parce que, oui, bah, c'est une œuvre multimédia. Il y a du son, il y a de l'image, il y a du dessin. Et en fait, il y a de l'ingénierie derrière, etc. Donc en fait, c'est un melting pot de tout ça. Et en fait, ce qui serait peut-être temps aujourd'hui au 21e siècle, c'est justement dépoussiérer tout ça et peut-être justement mettre une place clair aux jeux vidéo. Et quand tu parles, par exemple, de tomber dans le domaine public, je pense qu'il faut aussi redéfinir ces codes-là en disant que bah, si Final Fantasy VII tombe, entre guillemets, dans le domaine public, c'est l'œuvre telle qu'elle. Mais par contre, la licence, le nom, les personnages, l'histoire ou quoi que ce soit, pourraient très bien être encore protégées et propriété véritablement des créateurs. C'est juste que l'œuvre en tant que telle, telle qu'elle est, sans toucher à rien, vraiment le dump du truc, elle tombe dans le domaine public à des fins de préservation, de sauvegarde, d'accessibilité. Ouais. Et voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça autoriserait Sega à reprendre le truc et l'utilisation de la commercialisation ou quoi que ce soit. Il faut peut-être projeter un truc un peu plus grand. Je sais qu'on se projette et qu'on tire des plans sur la comète et tout, mais je me dis, si nous, en tant que passionnés, on n'aborde pas ce genre de thématiques et on ne les défend pas bec et ongle, bah, je me dis, en fait, au final, les choses n'avanceront pas, les choses n'évolueront pas. Et ça, c'est compliqué.
Bah, je crois qu'il y a effectivement une voie à chercher, et il faudrait que l'industrie s'organise, mais le problème, c'est que les grands acteurs de l'industrie n'ont pas intérêt à aller dans ce sens parce qu'ils peuvent en tirer profit par ailleurs. Même un Phil Spencer, qui, depuis plusieurs années, milite en interne dans l'industrie pour la possibilité d'utiliser tous les jeux de l'univers Xbox sur sa machine ou sur son service de Game Pass, eh ben il en retire aussi un intérêt commercial, même si je ne doute pas de ses bonnes intentions. Et donc, tous ont un intérêt commercial. Et je crois qu'il serait, comme tu le dis, bénéfique d'avoir cette discussion sans même, à vrai dire, aller dans la version minimum que je pense tout le monde pourra accepter, c'est l'établissement d'une sorte d'autorité de l'industrie qui serait une grande bibliothèque qui archive, comme on a des bibliothèques nationales, qui archive toute la... Et à vrai dire, peut-être que ça peut être fait au niveau des États, mais il faut que légalement, ça soit possible. Mais donc, qui archive tout ce qui est fait, comme on archive tous les livres, comme on archive des films, etc. Et qui archive tout ça parce que c'est des choses qui disparaissent.
Alors, n'oublions pas également qu'il y a... Nous, on ne distingue pas, et c'est important, hein, on ne distingue pas la préservation de l'accessibilité. Parce que là, par exemple, ce dont tu nous parles, il y a déjà, par exemple, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, plus communément connue par les Parisiens, par la Bibliothèque François Mitterrand, qui... en fait, fait déjà ce travail, puisque en France, on a une spécificité légale qui s'appelle le dépôt légal. Le dépôt légal, depuis 1992, oblige les développeurs, en tout cas les éditeurs qui sortent quelque chose physiquement sur le marché, à en déposer une double copie à la BNF pour archivage. Alors, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, la BNF doit disposer à ce jour probablement de l'une des plus grandes collections mondiales de jeux vidéo. C'est juste insane ce qu'ils ont. Et ils ont tout en double exemplaire, etc., etc. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. Mais là, encore une fois, on est sur une autre problématique. Parce que là, archivage, il y a. Mais par contre, accessibilité, il n'y a pas.
Non, et j'irai ça, même plus loin. Archivage. C'est emmerdant. Ils ont des copies physiques des jeux qui sortent en physique. Si je ne me trompe pas, cette obligation concerne les sorties en physique. Peut-être.
Alors, elle concernait les sorties en physique, mais figure-toi qu'il y a eu un avenant il y a quelques mois de cela, à la fin du confinement. Ça devait être, je t'estimerais ça, là, comme ça, à vue de nez, automne 2021. Mmh. Il y a eu un avenant, un décret qui est passé, et maintenant, également, tout ce qui est dématérialisé.
Ah bah c'est une bonne nouvelle, ça j'étais pas au courant effectivement.
Mais c'est tout récent, ce qui veut dire que vous vous rendez compte, c'est-à-dire que là, il y a un avenant en 2021 pour dire que tout ce qui est en démat doit être envoyé à la... Mais après c'est pareil, attention, hein, c'est un décret, et ce qui veut dire qu'il n'y a... j'en avais longuement discuté avec eux également en interne, c'est-à-dire que tout ça est au bon vouloir des éditeurs. Et clairement, les éditeurs, beaucoup, n'ont pas envie, pour des questions de propriété intellectuelle, de comment ça s'appelle, de sécurité, de peur de voir le code source, machin. Et du coup, en fait, eux, il y a une loi qui existe, et en fait, ils galèrent à avoir certains exemplaires de jeux, quoi.
Non, et puis, c'est bien beau d'avoir une version numérique d'un jeu, mais dans les systèmes qui sont développés, il faut que la version numérique qui est signée s'assure de son exécutabilité avec les serveurs, et je ne suis pas convaincu que ça soit dépatouillable, même au niveau de la Bibliothèque Nationale. Et puis ça concerne les jeux qui sortent en France, ça concerne pas les très nombreux jeux qui sortent au Japon, les jeux qui sortent peut-être ailleurs. C'est pour ça que je dis, si on avait un effort de ce type qui soit soutenu par l'industrie dans son ensemble et international, on pourrait se dire, ok, l'histoire au moins sera préservée. Et ensuite, on pourrait discuter de l'accessibilité, effectivement, comme tu le disais. Mais si on avait ça, on se dirait, bon, ils sont quelque part, il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est fait sérieusement, et donc ça ne va pas disparaître. Mais même
le problème,
ça,
c'est que nous
en
sommes
réalité,
en train de
on ne l'a même pas.
Mais nous sommes en train de parler d'un pays dans lequel on va avoir un musée de la carotte et un musée des vieux outils, et on n'a toujours pas de musée national du jeu vidéo.
Écoute, je ne critiquerai pas les musées de la carotte et les musées des vieux.
Absolument
outils.
Pas, et ça me fait très plaisir d'y aller tous les week-ends. Mais
on sera d'accord pour dire, Fabrice, que il faudrait qu'on ait effectivement plus d'efforts de préservation. Je crois qu'on va avancer un petit peu si ça te dérange pas.
Absolument, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est tellement en retard. Et il y a un tel travail de fond que, oui, c'est pour ça qu'on est... il faut, petit à petit, tu vois, essayer de rappeler ces sujets sur le devant de la table pour, justement, ne pas les oublier, parce que le travail est colossal. Et comme je le disais en introduction d'émission, c'est qu'aujourd'hui, c'est une véritable course contre la montre que nous faisons. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 15 à 25% du patrimoine jeux vidéo qui est perdu à tout jamais et dont on ne retrouvera jamais trace. Mmh. Et plus on va attendre, plus les médias vont dépérir, plus les consoles vont tomber en panne et plus ça sera de plus en plus difficile de pouvoir faire ce travail-là.
Et c'est pour ça qu'on parle de ces dumps de ROM qui se transforment en fichiers, du coup, qui sont facilement copiables, facilement transmettables, parce que les médias physiques ont une durée de vie qui n'est pas éternelle. Alors peut-être que, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que les ROM, les puces, se désagrègent moins que les CD ou les DVD, parce que ceux-là ont une durée de vie de quelques décennies, on va dire. Et je suis sûr qu'il y a déjà certains titres qui commencent à, même si on a notre CD quelque part dans la cave, et qu'on se dit, bah, c'est bon, moi j'ai le jeu de 1994 qui est bien préservé, eh ben, c'est comme n'importe quel type de préservation, si ce n'est pas dans les bonnes conditions d'humidité, de lumière, etc., eh ben, il n'est pas impossible que déjà certains de ces médias physiques commencent à se désagréger et donc à ne plus être utilisables. Et du coup, parlons un petit peu des solutions qu'on a aujourd'hui dans l'environnement informatique qui est le nôtre. L'impression de faire une campagne politique. Dans l'environnement informatique qui est le nôtre, Fabrice, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour justement préserver, quels sont les efforts que font le monde qui, des hackers, entre guillemets, parce que ce qu'ils font n'est pas forcément... l'émulation en elle-même est parfaitement légale. L'utilisation de ROM, je pense que les auditeurs en seront conscients, mais l'utilisation de ROM, c'est beaucoup plus flou. Je crois que la chose qui est acceptée, plus ou moins, c'est si on a une version, entre guillemets, achetée légalement d'un produit, si vous utilisez une version téléchargée d'une ROM, on va dire « bof ». Ça va, ça passe. Je crois que légalement, vous n'aurez pas trop de problèmes. Par contre, bien sûr, si vous téléchargez une ROM qui est, ou un programme ou un logiciel d'un produit que vous n'avez pas par ailleurs acheté légalement, là, c'est légalement beaucoup plus discutable. Ce qui est difficile à réconcilier avec le fait que y a plein de choses qui sont juste pas accessibles
Pour faire très court, vraiment je vous renvoie donc au livre de Geoffrey Bruneau qui est maître de conférences en droit à l'université et il a donc sorti le livre qui s'appelle donc Jeux vidéo, objets juridiques identifiés.
On mettra un lien dans les notes de l'émission.
Ouais, parce qu'il est vraiment très drôle comme bouquin, parce qu'il nous amène en fait par l'exemple. Donc il y a plein de situations cocasses, etc. En gros, ce que l'on retient un petit peu de ce livre et également de cette interview, parce que j'avais la chance de l'avoir interviewé sur la chaîne de Recallbox, et voilà. En gros, pour vous la faire courte. En gros, pratiquement tout ce que vous faites avec le jeu vidéo, c'est illégal. Déjà, en fait, c'est simple. C'est que le jeu vidéo, vous avez l'impression d'acheter une œuvre, c'est faux. En fait, vous achetez un droit d'utilisation.
Ça, on le sait, effectivement. On en parle.
Voilà. Ce qui veut dire que tout bête, par exemple, Twitch, vous streamez le jeu vidéo, illégal. Vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous avez l'autorisation de Capcom, de Nintendo, de quoi que ce soit, de streamer un jeu ? Bien sûr que non, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les musiques, vous n'avez pas le droit. Tout ce que l'on fait avec le jeu vidéo, 99% des usages d'un jeu vidéo, c'est illégal. Le prêter, l'échanger, le revendre, le machin, tout ça est illégal. Mais quand je vous parle d'illégal, c'est simplement d'une manière très cartésienne de se dire, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir ? Maintenant, la réalité... Et c'est ce qu'on apprend également dans le livre, et c'est ce que nous explique Geoffrey Bruneau, c'est que entre le légal et l'illégal, il y a aussi le champ d'action. C'est à partir de quand il y a aussi volonté de taper du poing sur la table et d'agir. Parce que même si c'est illégal, s'il n'y a personne qui vous tape sur les doigts, vous continuez. Et là, on est sur ce que moi j'appelle la zone grise. Mmh. Et aujourd'hui... il y a énormément d'us et coutumes d'usage du jeu vidéo qui se situent en pleine zone grise où les éditeurs et développeurs n'iront jamais attaquer les gens. Vous imaginez-vous si Capcom, Nintendo allait attaquer un streamer parce qu'il a streamé le dernier Mario Kart ? Enfin, vous imaginez le retentissement public.
On se souvient qu'il y a une époque où tu parles de Nintendo spécifiquement, qui sont très très protecteurs de leur IP. Il y a eu une période où, pour pouvoir utiliser des images des jeux Nintendo sur YouTube, il fallait faire partie du programme de créateurs Nintendo. Et Nintendo prenait une partie des revenus et reversait une autre partie des revenus aux créateurs. Alors, ça a duré, je sais pas, 1 ou 2 ans, et clairement, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans le sens de l'histoire. Mais, effectivement, ça appuie ce que tu dis. Légalement, les éditeurs, les constructeurs, les gens qui ont la propriété de ces propriétés intellectuelles, pourraient dire, et sur Twitch, c'est plus que toléré, c'est accepté, mais légalement, tu as raison, ils pourraient dire, non, vous utilisez notre propriété intellectuelle, on ne veut pas. Et il y avait même des questions qui se posaient en ce sens il y a encore quelques années.
Bien sûr. Et de fait, en fait, n'oublions pas encore une fois, en préambule de l'émission, on a dit tout à l'heure que le jeu vidéo, c'est un vrai gloubi-boulga d'existence juridique entre le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, etc. etc. Bref, donc tout ça, il se réfugie derrière justement ce flou juridique pour justement prendre les armes qui les intéressent au plus. Maintenant, après... Comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la zone grise. C'est sûr que franchement, vous allez télécharger 3 ROM, 10 ROM, 50 ROM ou quoi que ce soit. Franchement, personne ne va vous casser les pieds. Par contre, parce que n'oublions pas également que lancer des attaques, c'est mettre des avocats, faire des dossiers qui sont longs, qui sont excessivement coûteux, etc. Par contre, c'est vrai que faire ce qu'ont fait des gens comme Emule Paradise, I Love ROM et compagnie, ce sont des sites qui proposaient donc pratiquement l'intégralité des catalogues de ROM, etc. derrière, mais surtout qui faisaient des systèmes d'abonnement, premium, etc. Pour télécharger et compagnie. Accrochez-vous bien, mais lorsque I Love ROM, donc qui est un site 100% pirate, qui mettait à disposition des jeux, etc., quand il a été sommé de fermer par Nintendo, nous avons quand même découvert qu'il y avait 18 salariés à temps plein et que c'était un peu plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel.
Ouais.
Vous comprenez, si vous voulez, le delta entre vous voyez, je pense qu'il y a une zone d'acceptabilité de la part des ayants droit, des utilisateurs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre,
qui ne le dirait jamais comme ça, mais effectivement, c'est ce qu'on constate.
Voilà. En gros, c'est ça. Dès lors qu'il n'y a pas de transactions financières ou quoi que ce soit, ils ne vont pas emmerder les gens. Et je pense qu'à mon avis, même Nintendo commence à en avoir conscience également, parce que là où ça leur a pété à la gueule également, et ils ne l'ont pas vu venir, souviens-toi, la Nintendo Switch, lorsqu'elle est sortie, elle a un peu plus de 5 ans maintenant, puisqu'on a fêté son anniversaire il y a quelques semaines, lorsqu'elle est sortie il y a 5 ans, elle a surtout accusé d'un énorme retard, puisque la Nintendo Switch, comme quasiment toutes les consoles de Nintendo d'ailleurs, la malédiction Nintendo, ils ont raté leur période de lancement de Noël. Elle était censée sortir à Noël et ils ont pris du retard, etc. etc. Elle n'est sortie qu'au mois de mars. Et qu'a fait Nintendo dans ces cas-là, sachant qu'ils allaient complètement foirer leur période, etc. Eh bien, comme ils avaient fait à l'époque avec la Game Boy, lorsque la Super Nintendo avait pris du retard, ils ont jeté comme ça, telle une poignée de cacahuètes, en disant « Bah tiens, je vous offre ça sur le marché, ça va vous occuper quelques instants. » Ils avaient à l'époque lancé la Game Boy, elle avait cartonné. Et là, ils avaient lancé à l'époque, souviens-toi, la Mini NES. Et elle a pulvérisé tous les records, sold out, ça se revendait 500 balles sur le bon coin, etc., etc. Et en fait, ils l'ont pas vu venir, ça, en fait, vraiment. Hein. C'est pour ça que je te dis que nous, on voit ça par nos yeux de passionnés et tout, mais en interne, je pense qu'ils sont vraiment à côté de leur pompe en matière de préservation et de patrimoine, etc. Bref. Et donc, du coup, il a fallu, souvenez-vous, attendre des mois et des mois avant qu'ils arrivent à refabriquer un stock conséquent de mini NES. Et qu'ils ont remis dans un second temps sur le marché pratiquement au mois d'août de l'année suivante.
Ouais.
Pour répondre à la demande.
Tout à fait. Mais je crois qu'on a un petit peu cerné tout cet aspect. J'aimerais qu'on parle maintenant de ce qu'on peut faire en tant qu'individu, peut-être pour aider à la
comment
préservation
des jeux vidéo. Comment fait-on pour rejouer aux jeux vidéo de notre
enfance ?
Voilà.
C'est ça. Comment est-ce que se passe l'univers de l'émulation, l'univers du rétro gaming. Faisons un petit panorama de cet aspect de la discussion.
Alors, très rapidement, très simple. Vous voulez rejouer au jeu de votre enfance. Je vais vous détailler vraiment les différentes solutions qui s'offrent.
Attends,
à vous.
Excuse-moi, je t'interromps encore une seconde. On parle d'émulation et tout le monde pense à la NES, à la Game Boy, à la Sega Mega Drive, à l'Amiga, à l'Atari ST. Juste pour le fun, est-ce que tu as comme ça dans la tête quelques noms de systèmes hyper anciens qui sont également émulés dans l'univers de l'émulation et par Recalbox, dont on n'a peut-être jamais entendu parler, je ne sais pas, ou des trucs vraiment, vraiment là, au-delà des trucs qu'on veut faire parce que ça nous rappelle des souvenirs?
Oui, il y a eu beaucoup. Le jeu vidéo et l'histoire du jeu vidéo n'a pas été jalonné que de succès. On prend par exemple la Amstrad GX 4000. Est-ce qu'on a besoin de s'attarder là-dessus? Chez Atari, on se moque un petit peu, mais il y a eu la Jaguar, il y a eu la Lynx, qui n'était pas folle. Après, il y a eu des systèmes aussi.
Moi, je pensais carrément à des comment tu les appelles, les ordi PC.
Ordinosaures,
ouais.
C'est ça. Il y a plein de trucs. Il y avait le standard, par exemple, qui avait tenté d'être instauré. Souviens-toi, le MSX. Mmh. Certains vouent un culte éternel à ces machines. MSX qui était en fait non pas une machine, mais qui était un standard. Ce qui veut dire qu'en fait, la différence entre machine et standard, c'est que ils ont instauré le standard MSX, mais il y a eu plusieurs fabricants.
Ouais.
Plusieurs manufacturiers qui ont fait cette machine-là. Et donc ça, c'était un ordinosaure qui était en plus passionnant. C'est là-dessus, d'ailleurs, c'est sur MSX qu'a commencé la saga Metal Gear.
Ouais,
et donc c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait on va refouiller comme ça et arriver à redonner vie à plein de consoles qui étaient totalement obscures. Par exemple, nous sur Recalbox, on a ajouté en exclusivité l'émulateur de Époque. La console, c'était la Super Cassette Vision. Il y en a plein qui
rien que le nom, c'est un morceau d'histoire.
Mais oui, mais sauf que ce qui est drôle, c'est que sur chacune de ces consoles-là, attention, full set de 33 jeux, donc autant te dire, tu vois, on est sur un succès commercial fou, mais comme je te dis, sur chacun de ces systèmes, il y a un petit morceau d'histoire du jeu vidéo. Pourquoi ? La Super Cassette Vision, accroche-toi bien, c'est la première console historique où il y a eu quoi ? Eh bien, le tout premier jeu Dragon Ball.
Ah ouais ?
Le tout premier jeu Dragon Ball, c'était sur la Super Cassette Vision. Tu vois, par exemple, alors pour les férus d'histoire, vous allez peut-être en avoir entendu parler, mais pour les autres, vous ne la connaîtrez peut-être pas, je vous invite à aller vous renseigner sur la Fairchild. La Fairchild, c'est quelque chose, ouais. Extraordinaire, console de 1976, full set de 37 jeux. Et en fait, cette console... Elle a un intérêt historique extraordinaire parce que, figure-toi que c'est la première console de l'histoire en 1976 à inventer quoi ? Les jeux interchangeables sur cartouche.
Ouais.
Et
on
c'est là où en fait finalement.
On a souvent tendance à penser à l'Atari VCS 2600 pour ça, mais c'est vrai que ça s'est fait avant. Ouais.
Et oui, ça s'est fait largement avant, puisque l'Atari est sorti pratiquement 2 ans plus tard, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc il y a plein de... Ça,
on peut mentionner Lori Katmos, les PC 88 et 98, qui étaient des trucs qui étaient très, très japonais, que nous, on n'a pas forcément... Enfin, c'est impossible d'avoir un truc de ce type-là aujourd'hui en Europe. C'est même pas envisageable.
Le ZX Sinclair également.
Ouais. Ouais, ZX Spectrum, ZX 80, tous ces jeux-là. Tous ces trucs-là, c'est des trucs que les gens connaissent. Mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, quoi, dont on n'a jamais entendu parler. Donc bon, bref, ça c'était juste pour donner un petit goût comme ça du fait que le rétro gaming et l'émulation, c'est pas juste la Nintendo et la Sega et la Game Boy, ça remonte beaucoup plus loin, quoi.
Pas du tout. Nous, à chaque version de Recalbox, on essaye d'apporter comme ça des nouveaux systèmes pour permettre justement de préserver l'histoire du jeu vidéo, parce que il y a pas de petite histoire, tu vois. Il y a eu des gens aussi qui ont connu le jeu vidéo par des sombres consoles un peu low cost ou quoi que ce soit. Par exemple, on nous a posé la question également, est-ce que on allait ajouter un jour ou l'autre non pas la Game Boy, mais la Cougar Boy. C'était en fait une sorte de déclinaison asiatique, etc. Ouais. Ben, on a regardé l'émulateur. Il y avait des gens, des passionnés qui l'ont développé. Et ben, on l'ajoute et il sera disponible pour la prochaine version de Recalbox, tu vois. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir... c'est pas la course à voilà, mais je me dis... L'objectif, encore une fois, nous, on est là pour raviver des souvenirs. Et si des gens à travers la planète ont ces souvenirs sur ces consoles, on se doit véritablement d'avoir ces systèmes compatibles et fonctionnels au sein de notre système.
Et effectivement, du coup, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des passionnés. C'est vraiment un mouvement qui a commencé, je dirais, qui a commencé à prendre de l'ampleur début des années 2000, le mouvement de l'émulation,
exactement,
je dirais.
C'est
à vue de nez. Et c'est à ce moment, en fait, qu'on a commencé à avoir des machines qui étaient suffisamment puissantes pour émuler... J'explique très rapidement. L'émulation, c'est le fait d'écrire un programme qui va interpréter les données d'une machine sur une autre. Donc, on peut, sur un PC, parce que c'est l'ordinateur le plus répandu, généralement, c'est sur PC ou sur équivalent, émuler une console, c'est-à-dire qu'on va... prendre cette ROM qu'on a dumpée, dont on parlait tout à l'heure, on va l'ingérer dans un programme, enfin la faire ingérer par un programme, et ce programme va lire les instructions comme si lui-même, il était la console pour laquelle le jeu est prévu, et afficher l'image et prendre les inputs de la manette ou du clavier et les traduire à la console qui est émulée virtuellement pour faire en sorte que le jeu devienne jouable sur la machine. Et ça, il y a des dizaines, des centaines d'équipes qui sont généralement, enfin de taille variée, constituées de passionnés. Il est très rare de pouvoir faire de l'argent avec ce type de travail, qui vont essayer de créer des émulateurs, des multi-émulateurs pour différents types de machines, différentes machines qui sont en constante amélioration. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un émulateur de NES qui a été créé que cet émulateur ne va plus changer, parce que c'est un travail très délicat, très compliqué. Il y a des jeux qui utilisent des matériels, enfin qui utilisent les machines de manière différente, de manière précise, parfois de manière qui n'était pas prévue. Donc on affine toujours le travail. Il y a même matériels qui sont meilleurs pour l'émulation aujourd'hui parce que la puce elle-même, on va dire, est reconfigurée logiciellement pour devenir une puce équivalente à celle qu'on avait à l'époque vraiment dans la console, donc l'émulation est plus fidèle. Bref, il y a plein de choses différentes comme ça. Et donc, il y a en gros, si on va dire à quelqu'un « vous voulez jouer à tel jeu de telle console aujourd'hui », c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver quand même, parce que il y a en plus pour chaque console ou machine des projets différents et des émulateurs différents qui vont avoir des points forts ou des points faibles sur différentes sur différents aspects de l'émulation. Du coup, c'est très très facile de s'y perdre. Comment on fait ?
Eh ben, guide de survie dans le monde du rétro gaming par Fabrice de Recalbox en moins de 5 minutes. Très rapidement, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon des différentes solutions qui s'offrent à vous si vous voulez rejouer aux jeux vidéo de votre enfance. Dans un premier temps, bien sûr, on va partir de la base parce que ça reste la solution qu'on conseille, même si c'est pas la nôtre. Hein, la solution qu'on conseille autant que possible, c'est matériel d'origine, jeu d'origine sur télévision d'origine. Vous aurez forcément la meilleure restitution possible, etc. Les choses dans leur contexte, dans leur époque, dans leur jus, c'est vraiment le meilleur des résultats. Problème, c'est qu'aujourd'hui, les consoles, les jeux, c'est fragile, c'est difficile à trouver, et malheureusement, c'est maintenant touché par la hype du rétro gaming. Donc aujourd'hui, c'est une passion qui est malheureusement, et c'est ce qu'on déplore énormément, c'est que c'est une passion qui est réservée à une élite aujourd'hui, tellement ça coûte cher. Une console, c'est très difficile de la trouver maintenant à moins de 70-100 euros. Et les jeux, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, et voire même les plus intéressants, ou en tout cas ceux qui nous ont marqués dans notre enfance, sont très demandés et aujourd'hui se négocient à 3 voire 4 chiffres. C'est totalement indécent les tarifs qui sont pratiqués. Ça, c'est pour la solution d'origine. Ensuite, L'autre solution que je peux vous vous faire ça en matière d'entonnoir, en matière, je trouve, de solutions d'intérêt, etc., etc. La deuxième solution qui s'offre à vous, c'est de jouer sur du matériel d'origine, télévision d'origine, mais par contre, pour pallier au fait que les jeux coûtent excessivement cher, vous avez ce qu'on appelle des Everdrive, qui sont en fait des systèmes qui sont très intéressants. C'est une cartouche avec quoi ? Une carte micro SD à l'intérieur dans laquelle vous allez pouvoir mettre tous vos jeux. Et la cartouche, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de cartouche réinscriptible. Vous avez, quand vous allumez votre console, un menu, vous choisissez le jeu s'écrit dans la cartouche et en gros, il va s'exécuter exactement comme il s'exécutait à l'époque. Très bonne solution. Faites gaffe quand même, si vous voulez une dizaine de consoles, et ben, il va vous falloir les 10 consoles d'origine et une dizaine d'Everdrive qui ont facilement... des budgets qui peuvent avoisiner les 200-300 euros pièce. Donc ça peut très vite coûter très 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 très, très cher si vous avez une collection d'une dizaine de consoles. Donc faites attention.
Cette solution-là est quand même très très proche du matériel d'origine puisque la console est la console d'origine. Et je peux imaginer que ça soit un compromis intéressant pour certains utilisateurs. Je te pose une question sur ce type de solution. Tu dis matériel d'origine, mais tout le monde n'a pas une télévision à tube cathodique. Est-ce qu'il y a des solutions pour, si on a une console, peut-être même que certains des auditeurs ont dans leur cave une vieille Super Nintendo ou une Mega Drive et qu'ils disent « Ah mais attends, je pourrais la ressortir, la rebrancher, j'ai quelques jeux ». Sauf que j'ai plus de télé cathodique.
Alors,
il y a une solution pour brancher.
Très clair, je vais être très clair. Dès lors que vous avez le matériel d'origine, sincèrement, n'essayez même pas de brancher ça sur une télévision à écran plat si vous avez une entrée Péritel. Oh là là, mon Dieu, comment c'est. Oh là là, c'est. Vous allez saigner des yeux et en fait ça va vous gâcher parce que vous allez avoir l'impression de dire ah mais en fait c'était dégueulasse à l'époque. Non, c'est pas que c'était dégueulasse à l'époque, enfin c'était pas super joli, mais je vous expliquerai plus tard. Mais en fait le problème c'est que tel quel, brancher une vieille télé, enfin une vieille console sur une télé moderne, vous allez voir, ça va amplifier tous les défauts et tout ça, ça va être vraiment atroce. Éviter autant que possible, mais encore une fois, j'étais dans la stratégie de l'entonnoir, je vais y venir, des solutions sur télévision moderne, mais en tout cas, autant que possible, privilégier même un petit 36 cm. 36 cm, c'est un cube qui fait 35 par 35, ça peut potentiellement se caser quelque part. Vous voyez, c'est pas le truc un peu
mais
prohibitif.
Mais ça se trouve, ça s'achète tout, ça coûte combien?
Alors déjà, dans un premier temps, vraiment, je vous promets, arrêtons d'entretenir la hype du rétro, du vintage, etc. Des télévisions à tube cathodique, vous allez sur donon.org, vous allez sur Facebook, vous faites appel à votre réseau, famille, amis, proches, cousins, cousines, sur Facebook, vous lancez un appel, est-ce que quelqu'un a encore une vieille télé? Je vous promets une vérité, c'est que honnêtement, je m'y intéresse depuis 2 mois. Je dois en avoir une dizaine dans le salon des télés. Je les récupère parce qu'en fait, je suis en train de faire des tests, etc. Et une fois que j'aurai fini mes tests, je vais les redonner aux utilisateurs de Recallbox pour ceux que ça intéresse, etc. Bref, mais j'ai réussi à en avoir une dizaine. Donc si j'ai réussi à en avoir une dizaine, vous êtes capable d'en avoir. Et toutes les télés que j'ai récupérées, mais ma parole... Les gens, ils m'ont accueilli comme le messie chez eux. Je vais enfin me débarrasser de ma merde que personne ne veut, etc. Donc arrêtez d'acheter des télévisions comme ça, 50 balles, 100 balles, etc. Ils veulent la vendre. Eh ben, qui la vendent, qui se démerde. Mais franchement, allez voir des petits particuliers. Il y a des gens qui n'ont pas les forces, qui n'ont pas les bras de descendre la télévision, du grenier, de la cave, de machin, de je ne sais pas quoi. Franchement, vous arrivez avec un chariot à roulettes, une paire de bras, et ben franchement, vous allez les délester d'un truc. Moi, j'ai même vu des gens qui voulaient me donner un billet parce que oh, ça me fait tellement plaisir, vous me faites libérer de la place, etc. etc. Tu dis, mais c'est fou, quoi. D'accord. Limite, il y a des gens qui veulent te payer. Donc non, ça, les télévisions, ça peut encore se trouver. Par contre, les télévisions avec télécommande, ça devient très difficile. Et après, faut voir un peu l'état dans laquelle elle est, mais ça peut se trouver. Faites un peu le tour et je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur.
Mais tu me confirmes par contre que les télévisions tube cathodique, ça ne se vend plus neuf.
Non, malheureusement, ça ne se vend plus neuf. Il y a certaines parties du monde où il y a encore des fabrications d'écrans CRT. La seule problématique, et là on en revient à quelque chose d'historique que tu as connu, que j'ai connu et que les moins de 20 ans ne connaîtront jamais, c'est que les écrans avaient des spécificités géographiques. C'est-à-dire qu'on en revient à la fameuse époque du PAL, NTSC et SECAM. Et du coup, en fait, bah, les écrans qui sont en train d'être fabriqués, malheureusement, ce sont des écrans qui sont majoritairement NTSC. Et attention, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais la fameuse prise Péritel que nous avons connue en France, eh bien, il faut savoir que les deux tiers de la planète ne savent même pas ce que c'est.
Ouais.
Les deux tiers de la planète n'ont jamais eu de prise Péritel. La plupart des joueurs, notamment nord-américains, asiatiques, Océanie également, Australie, etc., ont toujours branché leur console avec les Cinch, les RCA, ouais. Et ils étaient en composite dégueulasse.
Ce qui est immonde, immonde. La prise Péritel permettait de brancher en RVB ou en RGB. Et c'est bien, bien plus beau que le composite.
Mais bon. On a beaucoup décrié dans l'histoire le format PAL parce qu'on fonctionnait en 50 Hz et non pas en 60 Hz, faute à des différences de fréquence de courant électrique. Et également, du coup, on avait des jeux qui étaient un peu plus compressés parce qu'on avait des bandes noires en haut et en bas. Mais malgré tout, en réalité, la vérité qu'on avait, c'est que c'est nous qui avions les bons formats. Parce qu'on avait la prise Péritel, on avait le RVB, on avait le SECAM qui était une très bonne invention. Mais sauf que malheureusement, on n'a pas su l'imposer au monde. Et donc du coup, on s'est fait écraser par le reste qui était franchement de très piètre qualité. Honnêtement, je n'envie absolument pas les télévisions et le rendu vidéo qu'avaient les Américains ou les Japonais. Voilà quoi.
Et donc, voilà, parce qu'à l'époque à l'époque, on était très segmenté. On faisait du SECAM en Europe. Bah, ça posait de problème à personne parce que les trucs qui étaient faits en Europe restaient en Europe, les jeux vidéo qui devaient être adaptés et les films, ce genre de choses, c'était une préoccupation qui est venue dans les années 80-90, mais au moment de la conception du truc, on n'y pensait pas vraiment parce que ce n'était pas une nécessité.
Bien sûr, et d'ailleurs, pour histoire, et ça c'est très rigolo, mais il faut savoir que Nintendo a investi le marché européen sans avoir Nintendo of Europe. Ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Je veux dire, n'oubliez pas, les premiers jeux Nintendo NES ont été distribués par ASD, qui a très rapidement été récupéré par Bandai, et qui, après, a été récupéré par Nintendo, mais sur le tard, 2-3 ans après. Et donc, vous voyez, comme quoi tout s'est fait un peu dans l'urgence, dans la précipitation, sans vrai gros programme. Donc c'est pour ça que, oui, effectivement, il y a plein de choses où ça a été fait un petit peu à la va comme je te pousse, bien sûr, ouais.
Du coup, on se disait, on en était où
Les solutions. Donc les solutions, comme je le disais, autre solution également pour vous permettre de pouvoir rejouer sur vos jeux d'origine. Dernière solution qui me vient en tête rapidement pour rejouer, en tout cas sur CRT avant d'arriver aux écrans plats, c'est donc des solutions type... OSSC, qui vous permet en fait de brancher un matériel HDMI, donc notamment Raspberry Pi ou ce genre de choses, et de pouvoir après sortir une prise Péritel dessus. Vous avez également des Framemaster, mais qui est un appareil pareil qui vaut plusieurs centaines d'euros, etc. En fait, vous avez un boîtier qui vous permet de convertir le signal. C'est pas une solution non plus que je peux forcément vous conseiller, parce que là on est vraiment sur un truc ultra technique et tout. C'est pas génial. Maintenant, on va aborder vraiment l'ère moderne un peu du rétro gaming pour jouer sur des écrans LCD. Vous avez bien sûr, dans un premier temps, les offres légales. Vous allez avoir les mini-consoles, la mini Mega Drive, mini PlayStation, mini PC Engine, etc. Pratiquement, les plus connus ont eu leur mini. Problème, c'est que comment résumer le patrimoine, et je porte vraiment ce mot en avant, comment résumer le patrimoine de la PlayStation à 20 jeux, quoi. Enfin, déjà, ça a tellement été décrié. Comment tu veux ? C'est impossible. Même toi, même moi, on serait incapable de faire un top 20 de cette console. Tellement on doit au moins être à un top 80 ou à un top 150, quoi. Tellement ce système a eu plusieurs vies dans sa vie et tout, quoi. Donc, très compliqué. Par contre, l'avantage, c'est que ces mini-consoles peuvent être hackées pour permettre de mettre un disque dur ou un truc comme ça avec beaucoup plus de jeux à l'intérieur. C'est valable pour la Mini NES, la Super Nintendo, etc., etc. Et donc ça, effectivement, ça peut être une solution alternative assez intéressante, quoique technique, puisque il faut quand même s'y connaître un petit peu. Et ensuite, bah, vous arrivez aussi à des solutions comme Recalbox, justement, où vous avez la possibilité de monter votre propre console do-it-yourself. Donc en gros, c'est à base d'un petit Raspberry Pi. Vous installez Recalbox en trois clics de souris. Et une fois que c'est fait, bah, en gros, vous avez sur la carte micro SD un dossier par système. Un dossier Super Nintendo, NES, Mega Drive, Master System, etc., etc. Vous avez juste à mettre vos jeux à l'intérieur. C'est plug and play. Et vous jouez là-dessus directement sur écran LCD. Et vous profitez finalement du meilleur des deux mondes, puisque l'avantage, tu disais un petit peu, c'est que on est vraiment sur une solution all-in-one, c'est-à-dire qu'on va réunir à l'intérieur tous les systèmes, tous les émulateurs. Il n'y a pas besoin de passer de l'un à l'autre, comme on parlait avec les Everdrive, à débrancher les consoles, rebrancher d'autres consoles, etc., etc. Et puis, on a également donc, tous les avantages, à savoir le Bluetooth, le Wi-Fi, la connexion réseau. On a le HDMI qui est CEC, donc avec toi qui va dialoguer avec la télévision. Tu vas avoir le Rewind, les Save State, les shaders, en gros tout un tas d'améliorations pour faire en sorte que le jeu rétro se joue mais avec les codes d'aujourd'hui. Par exemple, est-ce qu'on trouverait ça concevable d'avoir une console avec une manette avec un câble d'un mètre? Bah à l'époque c'est ce qui se faisait hein, sur console. C'est ça. Maintenant je vous cache pas que un câble d'un mètre vous allez vous taper un sacré torticolis quand je vois la diagonale de certains écrans qu'on a dans les salons quoi, tu vois. Aujourd'hui, voilà, on joue avec les manettes sans fil, on joue avec le Bluetooth, on joue avec le réseau. Aujourd'hui, c'est génial. Recalbox, tu lances une partie de Street Fighter 2, eh bien, moi, je peux venir te rejoindre en joueur 2 à travers le réseau.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle le netplay. Par exemple, un truc qui cartonne sur les consoles d'aujourd'hui, c'est les achievements, donc les trophées, les succès, selon de quel côté de la barrière tu te situes. Nous, on est compatible avec ce qu'on appelle les rétro achievements. Il y a des tarés qui sont allés examiner le code source et les interactions mémoire des jeux pour dire, bah tiens, quand t'arrives à récolter 100 pièces dans Mario, quand t'arrives à passer au boss 4, quand t'arrives à machin, etc. Ouais. Et en fait, tu débloques des succès et tu peux débloquer tout un... Tu as une liste de trophées de succès à accomplir sur les jeux rétro et tu peux comme ça avoir des classements mondiaux et tout. Enfin, c'est insane ce qu'ils arrivent à faire. Je trouve ça sensationnel.
C'est ça qui est vraiment intéressant avec la digitalisation, comme je le disais tout à l'heure, des titres. C'est qu'on peut travailler dessus, améliorer les choses, changer les choses, remasteriser, remixer, etc. Et ça donne des possibilités qu'on n'avait pas jusque-là. Comme on le disait tout à l'heure, des émulateurs, il y en a des tonnes et des tonnes, et on vous laissera, si vous avez envie de chercher une console spécifique que vous aimez, ben on vous laissera aller regarder quel émulateur est meilleur ou moins bon, etc. Les solutions tout en un, comme la Recalbox, alors il y en a d'autres, mais je constatais par exemple que MAME, qui fait surtout de l'arcade, qui est un des émulateurs hyper connus parce qu'il fait il fait quasiment toutes les cartes d'arcade, tous les systèmes d'arcade au monde, ben il est inclus dans Recalbox. Je suis sûr qu'il y a d'autres projets comparables qui mettent ça unifié dans une interface qui permette de tout gérer d'une manière un petit peu cohérente et de ne pas se perdre à installer plein d'émulateurs différents, etc. Un truc qu'il faut mentionner aussi, c'est que... Alors, deux choses. On l'a dit tout à l'heure, mais pour récupérer les ROM spécifiquement, on va vous laisser vous débrouiller vous-même, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué au niveau à déterminer au niveau légal, donc on vous laissera vous démerder. Mais il y a deux choses que je voulais ajouter. D'une part, la Recalbox qu'on peut acheter sur le site de Recalbox physique, on peut lui adjoindre un port passer RT, un port Péritel, merci, voilà. Donc, on peut vraiment brancher ça sur une vraie télé à tube cathodique. Et d'autre part, ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut aussi simplement télécharger Recalbox ou tous les émulateurs sur le PC. Donc, oui. On peut très facilement faire ça pour avoir le truc sans avoir besoin d'acheter une composante physique, quoi.
C'est vrai que nous, la composante physique, on
j'ai l'impression que vous y tenez beaucoup.
Tient un peu parce que, en fait, si tu veux, pour nous, l'expérience de jeu console, c'est dans un salon, dans un canapé, avec sa manette, et pas le cul sur une chaise d'ordinateur, tu vois, mal installé devant un clavier, une souris, tu vois. Nous,
On a parlé des PC tout à l'heure, mais c'est surtout pour les consoles que ça.
Et c'est vrai que voilà, nous, notre vision du jeu vidéo, c'est confortablement installé avec une bonne expérience. L'expérience utilisateur est au centre de nos préoccupations dans Recalbox. C'est pour ça qu'on a une interface qui est très fluide, qui est très ergonomique. On trouve tout de suite nos petits à l'intérieur. On voit tout de suite de quoi ça parle, etc., etc. Donc là-dessus, bien sûr, on a donc différents niveaux de compatibilité. Donc on privilégie, on conseille pour les personnes qui n'ont rien. De partir sur les petites cartes qu'on appelle Raspberry Pi. Et par contre, à côté, effectivement, tu as raison, pour les personnes qui voudraient recycler ou faire d'autres choses avec un ordinateur, vous pouvez tout à fait installer Recalbox sur une clé USB, par exemple. Vous démarrez votre ordinateur sur la clé USB et vous allez avoir donc toute l'interface de Recalbox sans aucun souci. Après, il ne faut pas oublier et garder en tête quand même, parce que je préfère être totalement transparent, Recalbox n'est pas une application. Recalbox est un système d'exploitation comme Windows, comme Mac, comme Linux. Donc, du coup, il faut arriver à le faire marcher conjointement. Et donc, c'est pour ça que, justement, on vous invite à l'installer sur une clé USB. Comme ça, vous démarrez sur la clé USB. Vous ne touchez pas à votre Windows, votre Linux ou votre Mac OS sur le disque dur. Vous faites ce que vous avez à faire. Et puis après, quand vous redémarrez l'ordinateur sans la clé USB, vous démarrez votre Windows, etc. C'est un poil plus contraignant, certes. Mais c'est vrai que là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on voilà, on n'est pas une application et qu'on est un vrai système complet.
C'est pas qu'on lance Recalbox ou Windows, quoi.
Non, c'est pas possible comme ça, parce qu'on a voulu partir vraiment sur une solution vraiment tout en un. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, transformer cette solution en logiciel nous demanderait énormément de temps et d'efforts.
Bien sûr.
Et tu le sais très bien aujourd'hui, à nos âges avancés, que le temps reste malheureusement la denrée la plus rare. Et c'est vrai que c'est très, très difficile.
Du coup, la solution la plus simple, parce qu'effectivement, il y a des émulateurs qui sont des logiciels sous Windows. Vous allez pouvoir lancer votre émulateur sous Windows comme n'importe quel autre programme. Mais dans le cadre de Recalbox spécifiquement, le plus simple, c'est peut-être de se faire une petite Raspberry Pi avec Recalbox dessus et que vous vendez d'ailleurs sur le site. Ça coûte combien, du coup, un truc comme ça, si on veut une solution simple pour brancher sur notre télé, qui sera moche en écran plat, ça revient à combien ?
Alors justement, non, ça sera pas moche de jouer parce que ta chaîne, elle sera entièrement numérique. C'est-à-dire que le Raspberry Pi va émuler en numérique une ROM numérique avec un signal numérique sur une télé numérique. Donc, ça sera propre. Et en fait, quand je disais, attention, ne jouez pas sur écran plat, ça va être dégueulasse, parce qu'en fait, c'était une chaîne analo-numérique. Donc, tu vas avoir analogique sur le jeu, sur la console, sur le signal qui, en plus, va être pire qu'analogique, qui va être composite pour la plupart, qui va être interprété par la télé et qui va être projeté en 175 pouces de diagonale, machin. Et là, vous allez saigner de la rétine. Là, au moins, vous avez vraiment une expérience de jeu qui est vraiment propre sur une chaîne qui est totalement numérique de A à Z. Combien ça coûte ? Déjà, sachez une chose, c'est que Recalbox est gratuit. C'est hyper important de le comprendre. Nous, on ne vend rien. En fait, sur le site, on a juste un lien vers une boutique française partenaire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la base, on avait simplement des liens affiliés à Amazon. Mais quand on a découvert, un peu comme tout le monde aussi, les pratiques, les coutumes, les grilles de tarifaires, les conditions de travail, le fait qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, etc., autant que possible, on a essayé de s'éloigner de ce truc-là parce que on a beau être un projet, on a aussi une éthique personnelle et on essaye de défendre des valeurs. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que Kubi, c'est une entreprise en France, une toute petite PME, hein, ils doivent être une petite dizaine de salariés à peine, qui est spécialisée dans la vente de Raspberry Pi. Payent leurs impôts en France et en plus ils font travailler pour tout ce qui est expédition, package, etc. un ESAT, donc avec des personnes qui font de l'insertion, des personnes handicapées qui font de l'insertion par le travail. Donc je trouve que la boucle elle est particulièrement vertueuse et donc c'est vraiment ce qui nous a plu là-dessus. Donc en gros on vous renvoie vraiment vers Kubi. Par contre on a gardé et on garde un œil très attentif sur les politiques de tarifs, etc. Et franchement eux ils vous proposent vraiment les appareils au prix plancher. Concrètement, si vous avez absolument rien, comptez un petit budget de 100-120 euros, un truc comme ça, pour vous faire vraiment la console clé en main. Pour les personnes qui auraient déjà éventuellement des manettes, parce que finalement, ce qui va être un gros budget, ça va être aussi la manette. Hein. Vous avez vu les tarifs des manettes aujourd'hui, ça a vite fait de coûter cher. Là, après, c'est vrai que si vous enlevez ce truc-là de l'équation, vous pouvez commencer à avoir un truc qui tient la route à partir de 70-80 euros, quelque chose comme ça, quoi.
D'accord, donc ça reste quand même assez acceptable. Il y a plein de packs différents d'ailleurs sur le site Kubi et d'autres produits que la Recallbox spécifiquement. Je t'avoue que moi, en parlant là, la solution tout en un, ça me donne envie quoi. Tu dis, tu prends une sens entre 50 et 150 euros et tu as une solution moderne pour faire un petit peu tout ça. Ça donne envie, c'est sûr, mais bon.
C'est génial parce qu'en fait, c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas visualisé ce qu'est un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, je pense que tu peux le voir là sur les photos, c'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Ouais.
Et ce qui veut dire que les exemples qui nous touchent beaucoup, parce qu'on a beaucoup de photos d'utilisateurs, tu sais, qui prennent en photo, qui nous taguent sur les réseaux, etc. Mmh. Et je sais que par exemple, un truc tout bête, c'est qu'on est excessivement utilisé par la communauté des cheminots. Parce qu'en fait, la communauté des cheminots, les gens ne le savent pas, mais quand faut aller faire le premier train entre Aix et Perpignan ou je sais pas quoi, enfin tu vois des trucs comme ça, les mecs, les cheminots, généralement ils découchent entre 2 et 4 soirs par semaine et ils dorment pas chez eux, ils dorment pas auprès de leur famille, ils dorment pas auprès de... Et donc du coup, avec une Recallbox qui tient, je te dis, gros comme un paquet de cigarettes, ils se font une petite sacoche avec 2-3 câbles, le transfo, le câble HDMI et tout. Et bien, où qu'ils aillent, dès lors qu'ils ont une télé à disposition, eh bien, ils peuvent se brancher dessus et à la fois rejouer à tout un tas de jeux pour passer un petit peu le temps. Recallbox, on n'en a pas parlé, mais on a eu l'idée aussi d'inclure de base Kodi, qui est le successeur de XBMC, donc le lecteur multimédia. Donc, pour lire des séries, des films, des machins, des trucs. Et au final... ça leur fait un appareil électronique ultra polyvalent et qui leur permet d'occuper leur longue soirée solitaire, quoi, tu vois. Et ça nous touche beaucoup et c'est vraiment chouette de voir ce genre d'usage qui sont faits justement de notre solution.
Écoute, si les auditeurs n'ont pas tout à coup eu envie de s'intéresser spécifiquement à Recallbox, vous l'avez compris, le but de l'émission n'était pas forcément de parler de Recallbox uniquement, mais tu fais super bien ton boulot et là, moi, j'ai hyper hâte.
Encore une fois, je suis pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit parce que nous, ce qui nous réunit tous finalement, c'est uniquement la passion du rétro gaming. Donc en fait, finalement, n'hésitez pas, venez avec nous, on discute, on échange, on partage. Il y a plein de gens qui à la base sont assez réticents sur l'idée de l'émulation parce que toi comme moi, on a connu l'émulation au début des années 2000. Putain, c'était un sacerdoce quand même, hein. Fallait le faire, hein. Aller télécharger les émulateurs, les drivers, configurer les manettes, les machins, c'était une vraie usine à gaz. Là, aujourd'hui, vous avez un truc qui est totalement plug and play. Tout est géré en fait en arrière-plan. Et en fait, vous allez lancer de l'Atari VCS 2600 de la même manière que vous allez lancer de l'Apple II, de l'Amstrad, de la Nintendo, de la Sega, etc. Et c'est totalement transparent en fait. Vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre ultra rapidement sans avoir à reconfigurer votre manette ou des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et puis, n'oubliez pas aussi que l'expérience utilisateur est vraiment au centre de nos préoccupations, tout comme l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Et du coup, nous, on est en direct tous les samedis et dimanches matin sur Twitch. C'est un rendez-vous que j'ai lancé et auquel je tiens vraiment particulièrement, où en fait, c'est bête, je lance le stream et je réponds aux questions, tout simplement. Donc, toutes les semaines, tous les week-ends, les samedis, le dimanche matin, on se lève de bonne heure et on est en live à partir de 10h et on passe comme ça 2-3 heures. Et en fait, c'est cool parce que les gens, tu vois, ils interviennent, ils nous posent des questions. Tiens, au fait, j'ai acheté une nouvelle manette, est-ce qu'elle est compatible, comment je fais, etc. Et en fait, on discute, on papote comme ça et en fait, on fait avancer un peu le schmilblick très facilement. Et je pense que ce que les gens apprécient justement dans le projet Recallbox, c'est justement notre proximité et notre accessibilité à la fois facilité, mais aussi parce que nous-mêmes, humainement, on est facilement accessible, on répond facilement aux questions et on laisse jamais les gens dans la merde ou dans la cagade avec des trucs qui fonctionnent pas, quoi. On va toujours se plier en quatre pour essayer de leur trouver une solution.
Oh, la passion déborde, c'est magnifique.
Et tout ça gratuitement, hein, parce que je rappelle hein, qu'on est totalement bénévole et qu'on fait ça, je veux dire, sans aucune autre arrière-pensée que peut-être une certaine volonté d'évangélisation de la planète au rétro gaming et au pixel, mais à part ça, tu vois, on n'a pas d'autres... véritablement arrière-pensée, si ce n'est de faire vivre cette flamme du rétro gaming.
Il faut avouer que c'est un univers dans lequel il est très facile de se perdre et je pense qu'il y a totalement la place pour des acteurs comme Recallbox pour faciliter l'entrée dans cet univers. Et je suis en train de naviguer sur le site de Kubi là et je vois plein d'options différentes. Il y a même des versions, portables exactement.
Parce que vous pouvez vous faire votre petite console, parce que là on a parlé effectivement d'une utilisation salon, mais il y a aussi maintenant des systèmes qui permettent d'avoir petite console portable, vous l'amenez partout avec vous et tout. Au moment où on enregistre ce podcast également, il y a un nouveau matériel qui va sortir, mais malheureusement avec la pénurie des composants, les conflits internationaux, enfin, tu sais, le monde cool dans lequel on vit en 2022, c'est le truc génial. Ça a pris du retard, mais sinon, il y a pour vous la faire courte, il y a le GPKS 2 qui est en train de sortir et d'ici cet été, tous les composants seront un peu disponibles. Et en gros, pour vous la faire courte, vous allez avoir une mini console qui va ressembler à une Game Boy. Déjà, donc, ça veut dire qu'en portable, vous allez pouvoir jouer à peu près à tout ce que vous voulez directement dessus. Et surtout, c'est que quand tous les composants seront disponibles, d'ici la fin de l'été, normalement, eh bien, en fait, cette console, vous allez pouvoir la docker exactement comme une Switch et pouvoir passer en HDMI sur votre télé.
Oh, GPKase 2. Ah ouais, non, mais ok, d'accord, très bien. Merci.
Alors là, le problème qui se pose, c'est que le GPKase commence à être disponible parce que c'est une nouveauté 2022. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, il s'appuie sur un ordinateur, on en a parlé, un Raspberry Pi, sauf que c'est un Raspberry Pi spécifique qui, lui, ne sera disponible très vraisemblablement pas avant cet été, début de la rentrée septembre, octobre, un truc comme ça. Donc, on croise les doigts et dès que ce sera disponible, bien sûr, ça va devenir un best-seller, j'en suis quasiment convaincu.
Tu veux dire que le GPKase lui-même est disponible, mais le Raspberry Pi, dont il a besoin pour fonctionner, n'est pas disponible.
C'est ça, puisque comme son nom l'indique, GPKase, c'est une case, c'est-à-dire c'est une boîte. Donc en fait, il y a, mis à part qu'il y a effectivement un peu d'électronique à l'intérieur, mais il n'y a pas l'unité centrale, le cerveau en fait, qui est donc le Raspberry Pi. Et pas de bol pour eux, hein, ils l'ont sorti, c'était dans leur projet, ils sont allés au bout de leur processus de fabrication, paf, rupture de stock mondiale de Raspberry Pi sur ce modèle bien particulier, parce que c'est un modèle très très spécifique, qui vaut pas cher, hein, mais qui est très spécifique, et la Fondation Raspberry, au regard de tout ce qui se passe, a privilégié la fabrication de ces best-sellers plutôt que ces cartes spécifiques-là dont il y a besoin pour ce modèle. Et donc, ça prend un peu de retard. Et tu sais très bien, en plus, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, quand là, on est au mois de mars, tu lances une commande en Chine pour faire des grosses unités, entre le moment où tu passes commande, les chaînes de fabrication s'activent, ils vont fabriquer 100 000 unités ou 1 million d'unités, ils vont te foutre ça sur un cargo qui va traverser la planète, etc. En fait, il faut quasiment 2 trimestres pour... Le moment où tu passes la commande et le moment où tu la reçois, quoi.
Bon, écoute, on gardera un œil sur Kubi parce que la GPKase 2, là, elle donne très, très, très envie. J'imagine qu'elle sera... que Kubi l'aura en stock quand il sera disponible un peu plus largement.
Bien sûr.
Écoute, je crois qu'on arrive au bout de notre passionnante discussion sur, sur tous ces sujets. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter qu'on n'aurait pas évoqué sur un domaine connexe?
Si vous
ne
l'avez pas compris, le rétro, c'est bon, mangez-en, matin, midi et soir. 5 pixels et légumes par jour, très très bien. Non, c'est important parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai adoré et ce que j'adore au travers du projet Recallbox, parce que j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens comme toi, de pouvoir discuter avec des gens passionnés et tout, c'est qu'en fait, il n'y a pas un jour où je ne découvre pas un truc, en fait, tu vois. Il n'y a pas un jour où on ne se replonge pas. Là, par exemple, tu vois, j'ai une émission le mercredi soir où sur Twitch, alors c'est l'émission de la feignantise, hein. J'allume ma webcam et je fais bon allez, faites-moi découvrir vos vrais jeux là, faites-moi découvrir les jeux qui vous font kiffer. Et en fait c'est ouf, mais à chaque fois je fais putain mais c'est trop bien, il y a des trucs je suis passé complètement à côté quand j'étais jeune et tout, et notamment du côté de l'arcade, parce que moi j'ai vécu alors mais vraiment je suis passé mais complètement à côté de l'arcade dans toute ma carrière et mon parcours de joueur, parce que les seuls coin là où j'étais où il y avait de l'arcade, c'était dans les troquets, et franchement je suis désolé mais dans ma famille, ou en tout cas nous, c'était dans le coin, c'était très mal vu d'aller dans les troquets, quoi, tu vois. C'était vraiment des repères de poivreaux et compagnie, et donc j'ai pas connu l'arcade. Et là, tu vois, dernièrement, juste pour vous citer celui-ci, parce que moi il m'a retourné les cerveaux, je l'adore, et depuis je me mets à réapprécier un style de jeu qui était sur lequel j'étais pas très familier, les shmup. Les shoot 'em up, donc un vaisseau, vous tirez, etc. Alors dans l'inconscient collectif, c'est très vaisseau spatial contre les extraterrestres, etc., etc. Et bien en fait, on m'a fait découvrir un tout nouveau shmup que j'avais jamais entendu parler, enfin en tout cas nouveau dans le sens où je le connaissais pas. Il est sorti courant des années 90 par Irem, ça s'appelle In the Hunt, et en gros, et bien le vaisseau que vous avez a une particularité, c'est que c'est un sous-marin, et vous allez pouvoir balancer donc des torpilles, et vous allez pouvoir balancer également des grenades pour toucher des trucs dans le fond, et également des missiles pour aller essayer d'abattre les avions ou les hélicos qui vous enverraient des torpilles aériennes, etc. Et en fait, du coup, il a des mécaniques de jeu qui sont géniales, des animations à la Metal Slug qui sont à tomber par terre tout en pixel art, etc. Le jeu, vraiment, il m'a fait décrocher ma mâchoire. Je me dis putain, mais comment j'ai pu passer à côté de cette merveille? C'est absolument formidable. Et ouais, du coup, je l'ai poncé comme pas possible, et j'ai adoré. Et il y a tellement de jeux comme ça. Et du coup, tous les mercredis soirs, 21h sur Twitch, on se donne rendez-vous pour se faire découvrir des pépites. Et même encore en 2022, on est tous en train de découvrir. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est bête, mais encore aujourd'hui, quand je suis en stream, je suis en train de jouer, des trucs comme ça. Si tu savais le nombre de personnes qui m'interpellent en me disant mais au fait, tu joues à quoi? Et là, tu marques un temps d'arrêt, je fais c'est Street of Rage. Et là, tu te dis, putain, merde, il y a des gens qui connaissent pas Street of Rage. Mais en fait, il y a juste des fois où il faut faire preuve juste d'humilité et de se dire que, il y a toute la nouvelle génération qui arrive, qui ne connaissait pas les jeux de notre enfance, qui savent même pas ce que c'est qu'une cartouche. Il y a même, tu imagines, des gens qui savent même pas ce que c'est qu'un jeu CD, tu vois, tellement la nouvelle génération a été biberonnée au démat. Donc du coup, faut faire preuve d'humilité, et faut faire preuve de pédagogie et d'ouverture d'esprit pour sans cesse entretenir la flamme des jeux qui nous ont passionnés, d'aller sans cesse attiser la curiosité pour aller découvrir d'autres jeux, etc., etc. Et c'est vrai que c'est génial, quoi. C'est génial parce que il y a tellement de jeux qui sont sortis qu'on a un patrimoine qui est inépuisable, quoi.
C'est bien de conclure là-dessus, parce que c'est vraiment la vraie finalité de tout ça, c'est le fait de pouvoir vivre cette histoire et de découvrir ces petits trucs cachés qu'on connaissait pas et de qu'ils ne disparaissent pas, quoi. Et je trouve que tu l'as très bien illustré dans ce dernier petit témoignage. C'est ça le but, en fait. C'est pas oui bien sûr l'archivage tout ça, mais c'est parce que c'est un média particulier.
C'est pour ça que je t'ai dit justement archivage et préservation, oui, mais avec de l'accessibilité.
Parce que si c'est pour
entasser des étagères entières, comme le font de nombreuses associations, etc., et que c'est fermé à double tour et que personne n'y a accès, intérêt zéro. Il faut que ce soit accessible. Il faut que tout le monde puisse mettre la main dessus et se partager, entretenir cette petite flamme. Et la seule chose que je pourrais conseiller aux gens, c'est vraiment faites preuve de curiosité. Vraiment faites preuve de curiosité. Aventurez-vous sur des jeux, enfin sur des solutions comme Recallbox ou quoi que ce soit. C'est très commun que les gens vont récupérer des full sets. La seule chose que je vous dis, bien sûr, dans un premier temps, rejouez au jeu de votre enfance parce qu'il y a un effet Madeleine de Proust qui est sensationnel. Mais après, bah, n'hésitez pas. Par exemple, vous aimez Metal Slug, regardez le nom du développeur, intéressez-vous et regardez les jeux qu'ils ont sortis. Parce que si vous aimez Metal Slug, il y a de très fortes chances que l'éditeur qui a sorti Metal Slug ait également sorti d'autres jeux passionnants, quoi. Mais ouais. C'est génial. Donc, soyez curieux, intéressez-vous et partagez. C'est le plus important dans tout ça.
Un grand merci pour ton enthousiasme et ta passion et tes explications. J'espère qu'on aura...
Et ton invitation.
J'espère qu'on aura réussi à intéresser des gens à cet univers, ou en tout cas les éclairer un petit peu sur la raison pour laquelle c'est si important et l'existence de tout cet aspect, de tout ce pan de l'industrie du jeu vidéo qui est peut-être un petit peu moins discuté. Je mettrai dans les notes de l'émission le Twitter de Recallbox et le lien vers le site de Recallbox. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens doivent vers auxquelles les gens et un lien vers le livre que tu évoquais également.
Oui.
Donc ça sera bon aussi. Est-ce qu'il y a
non,
un autre lien?
Abonnez-vous à la chaîne. Je parle de la tienne parce que je trouve ta proportion à faire tenir notre discussion de 4h30 en 25 minutes est absolument sensationnelle. Donc non, félicitations à toi. Merci pour ta passion parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à suivre un petit peu tes émissions. J'essaye de popper un peu tant que je peux sur tout ce que tu fais et puis voilà. Et quel que soit d'ailleurs le créateur de contenu, et ça va être valable pour toi, c'est valable pour Recallbox et c'est valable pour plein d'autres choses. Et ce sera ma phrase de conclusion. C'est quelles que soient les personnes que vous suivez, à partir du moment où vous avez un coup de cœur pour un créateur de contenu. Tes émissions, tes podcasts, nous, ce que l'on fait sur les chaînes de Recallbox, puisqu'on se donne rendez-vous pour faire plein de trucs nostalgiques, rétro gaming, etc. Investissez-vous, vous lâchez un follow, vous abonnez, vous envoyez des subs, ce que vous voulez, peu importe, vous allez sur le Patreon, vous allez sur des trucs comme ça. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, en fait, les créateurs de contenu ont besoin de votre implication pour exister. Mais vraiment, et je pense que tu pourras pas dire le contraire, et je sais que t'es pas forcément du genre à tout le temps faire la publicité de tout ça, mais c'est important de le dire. Si vous aimez des gens, des créateurs de contenu, si vous voulez qu'ils continuent à être là demain et à être aussi prolifiques, etc., il faut vous investir, et même si c'est modeste, 1€, 2€ par mois ou un truc comme ça, essayez de le faire un maximum parce que à notre échelle, 1€ ou 2€, ça peut faire toute la différence également à la fin du mois, quoi.
Écoute, je vous encourage à effectivement aller vous abonner à la chaîne de Recallbox aussi sur Twitch et puis peut-être aller soutenir si vous le souhaitez. Je vais du coup, c'est vrai que j'oublie de le faire depuis quelques temps, mon petit laïus au milieu de l'émission. Donc là, je vais juste remercier les gens qui sont producteurs du rendez-vous jeu, qui sont sur Patreon à ce super niveau secret. Donc je voudrais remercier Claude Girel, Lancelot Davizard, Benjamin et Steph Sinalco. Et si vous appréciez l'émission, je dirais simplement, c'est à eux qu'il faut dire merci. Ces quatre producteurs et tous les très nombreux auditeurs qui choisissent de devenir patriotes sur le site dont je parle tout le temps et qui est en lien dans les notes de l'émission. Donc, un grand merci à eux. Et si vous appréciez l'émission, c'est grâce à eux qu'elle est là, cette émission. Donc, on leur envoie GG. un petit GG, exactement. Merci Fabrice, super moment
merci
passé en ta compagnie. J'espère que vous avez partagé un moment sympathique avec nous aussi. Et puis du coup, on se retrouve pour une émission d'actu, pour le coup un petit peu plus classique, la semaine prochaine. Grosse bise à tous.
Et si vous avez apprécié cette émission, dites-le dans les commentaires aussi. Hein. Et puis comme ça, si vous l'avez apprécié...
Dites-le sur Twitter,
dites-le
partout.
Mais oui, voilà, en partageant, en retweetant, voilà, faites de la visibilité, soutenez vraiment les personnes que vous appréciez. Et puis peut-être si vous faites suffisamment de bruit, peut-être qu'on essaiera de se faire des trucs plus souvent aussi. Parce que moi, j'apprécie à chaque fois les moments qu'on partage. On ne partage pas assez de temps ensemble. Patrick, j'arrête pas de te le dire. Il faut qu'on fasse des émissions. Je vais commencer à faire du lobbying pour devenir chroniqueur dans ton émission parce qu'on s'amuse beaucoup trop.
On va y réfléchir, on va voir ce qu'on peut faire. Très bien. Merci beaucoup Fabrice. À la prochaine et ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.